la liberté d'y croire encore, a comme amour en étendard. Elle a partout des camarades, de mots d'espoir et d'engueulades, et des couplets pleins les guitares. Le chant de mon cœur sans parti, mon anarchie. Mais j'aurais beau te l'expliquer, te parler de paix, de respect, le mot fait peur dès qu'il est dit. Sans haine, sans violence et sans armes, ni Dieu ni maître dans ses larmes, rien d'autre qu'un hymne à la vie. Comme les trois mots sur tes mairies, mon anarchie.
À toutes et tous, bienvenue dans le Tour du Monde Libertaire. Nous sommes le vendredi 23 février 2026 et nous allons vous présenter ce numéro du Monde Libertaire de mars. Une émission animée par Monique en régie, Nicolas et Serge au micro. Et aujourd'hui, nous serons rejoints par Julien qui fait partie du Tour du Monde Libertaire. Il sera au téléphone dans un peu plus d'une demi-heure. C'est parti pour le Tour du Monde Libertaire, le journal sans Dieu, sans maître ni publicité de la Fédération anarchiste, lundi 23 février 2026. Quoi de neuf depuis notre précédente édition du 26 janvier dernier ? À l'occasion de la publication du Monde Libertaire 1880 intitulé « Pour un municipalisme libertaire », numéro qui est toujours disponible dans l'excellente librairie de la Fédération anarchiste, la librairie Publico. Eh bien, il s'est passé deux ou trois choses, comme toujours. Nous en avons parlé à l'instant dans Trou Noir, mais demain, 24 février, cela fera exactement 4 ans qu'a commencé la guerre d'agression de la Russie poutinienne en Ukraine. Morts et destructions se poursuivent. Souhaitons-leur que tout cela cesse bientôt. En Palestine, autre terrain d'affrontement en dépit d'un cessez-le-feu de papier, les morts s'accumulent tant sur les territoires de Gaza qu'en Cisjordanie occupée. J'ai trouvé ce petit chiffre intéressant qui nous apprend que depuis 1967, ce sont 200 000 hectares de terre qui ont été confisqués par l'État israélien à des communautés palestiniennes, soit une surface équivalente à peu près à celle du département des Yvelines. Aux États-Unis, saluons tout de même ce qui est tout de même une victoire, c'est-à-dire que les mobilisations des citoyens du Minnesota ont contribué au départ des milices ICE et Border Patrol. Évidemment, il y a eu des blessés et des victimes, nous le savons bien, mais au moins, ils ont gagné en se mobilisant dans la rue. Le week-end dernier, plus près de nous, des affrontements entre deux groupes, l'un se réclamant d'idées propagées par des droites les plus extrêmes, racisme, haine des immigrants, anti-avortement. L'autre s'y opposant et se réclamant de l'antifascisme, ces affrontements ont conduit au décès d'un jeune homme roué de coups alors qu'il était au sol. Très vite, les premières réactions ont demandé que les organisations antifascistes soient qualifiées d'organisations terroristes afin de les interdire et d'exiger leur dissolution. Cette mesure s'inspire d'une décision semblable prise par l'administration trumpiste. La lutte antifasciste se mène dans les villes et dans les idées. Il est donc légitime de refuser de laisser l'espace public à des bandes qui propagent des idées que nous combattons et se revendiquent du fascisme italien ou du nazisme. Les autorités portent par ailleurs une lourde responsabilité lorsqu'elles autorisent de telles manifestations, comme elles l'ont fait le 10 mai 2025, où un cortège a réuni dans Paris plusieurs milliers de personnes arborant des symboles nazis. Ou, comme elles le font encore, en fermant complètement les yeux sur les activités de la Taverne de Thor, lieu de rassemblement néo-nazi dans le département de la Meuse. Et la gauche bourgeoise, celle que Bakounine appelait les endormeurs, la gauche bourgeoise, que fait-elle ? La gauche bourgeoise se tait, sidérée et tétanisée par le risque d'une prise de position trop hardie leur coûte cher à l'occasion des prochaines élections municipales. La gauche bourgeoise se tait et participe à une minute de silence parlementaire dont elle n'aurait pas songé à honorer le militant antifasciste Clément Méric, assassiné par les membres d'un groupe nationaliste en 2013. À la Fédération anarchiste, nous avons fait le choix de l'action directe non violente, ce qui ne signifie pas se croiser les bras sans agir, mais le lynchage ne fait pas partie de l'action directe non violente. Il n'est pas inutile de rappeler que le combat antifasciste est aussi celui des idées, et qu'il consiste à réaffirmer celles qui sont les nôtres, s'opposent et s'opposeront toujours aux pulsions de mort de celles et ceux qui se revendiquent des pires heures de l'histoire européenne. Les anarchistes luttent pour une société libre, sans État, sans classe, avec comme but premier l'égalité sociale et économique de tous les individus, ainsi que le refus de toute domination de sexe, de race ou de religion. Au mois de septembre dernier, Le Monde Libertaire consacrait son dossier mensuel à une rentrée antifasciste. Par ailleurs, la lutte antifasciste est une des campagnes de la Fédération anarchiste. Le dossier du mois de septembre du Monde Libertaire, auquel on peut se référer, proposait entre autres les textes suivants. La banalisation de la parole d'extrême droite n'est pas inéluctable. Du fascisme au post-fascisme, médias et antifascisme, la contre-révolution américaine et anarchisme et lutte sociale. Vous voyez donc un Monde Libertaire de septembre, toujours disponible à la Librairie Publique, j'en suis certain, qui ne manque pas d'actualité. Pour lutter donc contre l'extrême droitisation des esprits, des médias et de la société, lisez et faites lire Le Monde Libertaire. Ce numéro 1881, donc, sera très bientôt dans vos boîtes aux lettres, si vous êtes abonné, et nous vous recommandons de le faire, et pourquoi pas, d'en offrir un abonnement. En parlant d'abonnement, je tiens à vous rappeler cette offre promotionnelle que vous pourrez découvrir détaillée dans les toutes dernières pages du Monde Libertaire de mars, à savoir que pour tout nouvel abonnement au Monde Libertaire, ainsi que pour tout nouveau bon de soutien à Radio Libertaire, vous pouvez choisir un livre qui vous sera offert dans les dernières publications des éditions du Monde Libertaire. Donc il suffit d'aller sur le site des éditions du Monde Libertaire et depuis 2024, il y a environ un peu plus d'une vingtaine de nouvelles publications. Donc je pense que vous trouverez votre bonheur là-dedans. Donc voilà, offre promotionnelle pour tout nouvel abonnement au Monde Libertaire ou tout bon de souscription à Radio Libertaire. Avant d'aller plus avant et de vous parler dans le détail de ce Monde Libertaire de mars, un grand bravo à l'équipe qui travaille chaque mois d'arrache-pied à la réalisation de votre mensuel favori, rédaction, collecte des articles et des illustrations, mise en page toujours magnifique, envoi chez l'éditeur, un travail militant, autogéré et comme toujours sans Dieu, sans maître et sans publicité et sans IA.
N'avez-vous pas de mémoire? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendants de fringués chics présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence. Et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et les slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé du ciel, juste à point pour nous sauver. Comme l'ombre, comme l'image, grisâtre, vieillie par l'âge, de la barbarie du passé. Même racisme, même brute, même vertige, même chute, et vous restez muet. N'ont-elles rien qui vous débecte ces publicités infectes qui maculent nos journaux? Est-ce parti, valet des riches, qui se prétend sur ses affiches doux et blanc comme l'agneau? Qui déterre des peurs anciennes pour appeler à la haine sur fond d'Alpes et de drapeaux? Tandis que son chef ricane et triomphe et se pavane, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ne voyez-vous pas l'évidence, les provoques et la violence qui montent dans ce pays? Où sans honte, des cyniques, arrivistes politiques s'inclinent ou bien se rallient? Où l'on prépare le lit de l'horreur et de la nuit en se pensant à l'abri? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris désespérés faudra-t-il lancer ici? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris faut-il lancer, putain, pour vous réveiller?
Année 30, Michel Buller. Malheureusement, cette chanson est de plus en plus d'actualité. Vous n'allez pas arrêter de l'entendre. Vous écoutez Trou Noir. Non, pardon. Vous écoutez Le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Oui, eh bien donc voyons, puisque nous sommes dans le Tour du Monde Libertaire, voyons tout d'abord ce que nous dit l'éditorial fourni par le comité de rédaction du Monde Libertaire. Il est d'ailleurs l'œuvre de Julien qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Alors ça s'intitule « En attendant les calendes communistes ». Pardon, calendes grecques, ben, évidemment les calendes sont toujours grecques, ben non, parfois communistes. Alors « En attendant les calendes communistes, nom de Dieu ». J'en perds mon latin. Les partisans acharnés du grand soir, les marxistes et même, parmi les libertaires, ceux qui ne jurent que par la révolution, comme le préalable au moindre défaut, de changement social, ont tout essayé pour occulter un plan de la tradition anarchiste, taxer leurs idées d'utopie, de manie, remiser les tentatives pratiques en un risible folklore. Et pourtant, une majeure partie de ces idées sortent de l'ombre, aujourd'hui plus que jamais. Lesquelles ? Celles portées par les compagnes et les compagnons partant du principe que l'anarchie, c'était pour aujourd'hui et pas dans 100 ans. Refusant de sacrifier leur présent au futur, de passer leur vie à œuvrer pour un oméga collectif qui va arriver, c'est sûr, c'est pour bientôt, ces libertaires, souvent issus des rangs des anarchistes individualistes, ont entrepris de développer des concepts sur lesquels s'appuient encore bon nombre d'actrices et d'acteurs de dynamiques émancipatrices contemporaines. De ces pratiques militantes, réalisatrices, demeurent des concepts, certes parfois cannibalisés par le capitalisme, tels le commerce équitable, les coopératives, le véganisme, les milieux libres, le crédit gratuit, les alternatives éducatives, l'union libre. Pour beaucoup, cependant, ces idées ont aujourd'hui tellement infusé dans nos cœurs qu'adoptées par notre société, elles constituent désormais des conquêtes à défendre. Avancer pas à pas vers l'idéal anarchiste dans un cadre social bourgeois aliénant n'est pas chose aisée. Cela passe peut-être par la nécessité de vivre à côté, tout du moins différemment, des préjugés inculqués par les dominants, des pressions d'un monde du travail ultra hiérarchisé, d'un horizon de consommation. Dans un contexte de contre-offensive réactionnaire planétaire, ces initiatives opérantes et concrètes peuvent rassembler, on y revient, dérisoires ou utopiques. De modestes réalisations ont pourtant toute leur importance. Elles sont des incarnations vivantes qu'il peut exister autre chose. Ce sont des pistes, des suggestions. Même dans un océan de capitalisme autoritaire, dans les flots de médias d'extrême droite, une petite lueur produite par un groupe de compagnes et de compagnons qui se réunissent pour fonder une cuisine coopérative ou une bibliothèque, c'est bénéfique, libérateur. Et comme le disait Armand au début du XXe siècle, les phares ont cependant leur utilité. On n'attend pas que la mer ait disparu pour les allumer. Et donc, c'est signé de Julien. Et puis, quelques mots de la très belle couverture de ce numéro consacré justement à vivre l'anarchie. Alors, dans ce numéro de mars, la couverture dont je n'ai pas trouvé l'auteur, mais en tout cas, il faut l'en féliciter. On est dans une ville. Et en fait, on voit un A cerclé en construction. Donc, certaines parties sont en attente de quelques briques de plus. Et puis, dans toutes ces différentes parties de ce A cerclé en construction, donc, différentes personnes s'activent à la maçonnerie, à la peinture. D'autres installent une bibliothèque, une projection de films. Et on voit donc bien là toute l'anarchie, le projet anarchiste en construction, en train de prendre forme. Et musique.
Ils viendront vous botter les fesses quand ils seront plus forts et grands, détachés de vos lois, de vos messes, plus rien ne sera comme avant. Ils vous chanteront l'espérance dans le soleil d'une autre vie, délivrés de toute leur souffrance. Ils deviendront vos ennemis. Ève, la première en bataille, quittant la prison de son lit, sortira du fond de ses entrailles sa féminité, ses envies. La famille et la solitude seront bannies de son présent. Insoumise sans habitude, elle ne vivra plus comme avant. Et tous les enfants de la terre, garçons et filles indifférents, marcheront sur les pas de leur mère contre cet homme président. Puis viendront vêtus de misère les ouvriers, les paysans, reprenant les outils et la terre, plus rien ne sera comme avant. Fini vos siècles de richesse, de mensonges, de parlements, nous viendrons vous botter les fesses quand nous serons plus forts et grands. Nous serons plus forts et grands.
Ils viendront vous botter les fesses. C'était Louis Capard dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Vous le savez, le monde libertaire et ce numéro de mars ne déroge pas à cette habitude. Il y a différentes rubriques. Et la première que je vous propose d'explorer un petit peu, c'est celle qui s'intitule Terrain de lutte. Et on y retrouve, sous la plume de notre compagnon Ramon, le récit de ce qui s'est passé dans une biocoop. Et ce sont les salariés du magasin biocoop de la Place des Fêtes à Paris qui ont fait grève pendant presque tout le mois de janvier. Alors, quelles étaient les raisons de cette colère? Puisqu'on peut imaginer que la biocoop, tout ça mélangé, le coopérativisme, enfin, de façade, c'est normalement, on est respectueux un peu des salariés, voire des coopérateurs. Alors, pourquoi cette colère? Eh ben, pratique managériale abusive, pression constante, humiliation, intimidation, surveillance abusive, violence verbale. Absence d'augmentation des salaires, malgré un chiffre d'affaires en hausse. Donc voilà, de quoi étonner. Je vous donne quelques éléments de la charte promue par l'ENSAIG. Esprit de coopération, transparence et équité, partage de la valeur et plaisir. Véritable projet de société porté par chaque membre du réseau convivial avec une super qualité de vie au travail. Allez, visiblement, c'est pas l'expérience des salariés qui se sont mis en grève, parce qu'au bout d'un moment... Donc grève générale, avec piquet de grève devant le magasin, information en direction du voisinage... La direction a bien essayé de fonctionner avec des alternants et des stagiaires, ce qui n'est pas très légal, mais la fréquentation est restée quasi nulle. Résultat, un protocole de fin de conflit a été signé le 28 janvier avec mise à l'écart de la directrice dont le management était jugé toxique, hausse des salaires et mise en place d'un comité de vigilance constitué de salariés, d'habitants du quartier et d'organisations politiques ou syndicales. Donc, victoire. Voilà, victoire. La recette de cette victoire, eh bien, mobilisation sans faille des salariés, mobilisation du voisinage et des organisations syndicales. Tout ça crée un rapport de force. Et quand ce rapport de force existe et que l'argent ne rentre plus dans les caisses du patron toxique, alors il faut discuter. Hein, à un moment, il vaut mieux discuter. Donc on discute et c'est comme ça qu'on gagne. Bravo à eux, bravo aux salariés de Biocop et merci à Ramon pour ce récit. D'autres nouvelles nous viennent de nos compagnons de l'an. C'est Léo Decasse qui nous reparle, on l'avait évoqué un peu la semaine passée, sur l'agression qu'a subi le local de l'Étoile Noire au moment où ils accueillaient le collectif AVA pour Abolition de la Vénerie aujourd'hui. Voilà quelques chasseurs un peu échauffés par quelques breuvages excessifs, sont venus un peu saccager la porte d'entrée du local du groupe Kropotkine. Alors voilà. Donc, mais le soutien continue pour le groupe Kropotkine à ce projet Abolition de la Vénerie aujourd'hui. Par ailleurs, c'est toujours Léo Decasse qui nous fait le récit d'une autre soirée qui s'est déroulée à l'Étoile Noire. C'était le 6 février dernier, pardon, je vais y arriver. Ils ont reçu William Blanc, hystérien et vulgarisateur, pour une conférence débat autour des obsessions de l'extrême droite à s'approprier et pervertir sa discipline, l'histoire. William Blanc a démonté les discours trompeurs et mensongers des tenants du roman national, tout en défendant une pratique de l'histoire scientifique et populaire, et donc à retrouver dans... Serge, je veux dire un petit mot.
Oui, 30 secondes. Pour les anciens auditeurs, il a eu un certain temps une émission sur Radio Libertaire, sur l'histoire, voilà. Je repasse la parole.
Très bien. Et puis, toujours dans cette rubrique terrain de lutte, je l'ai vaguement évoqué dans mon éditorial au début. Donc cette fameuse taverne de tort, taverne de mort. Donc il y a un article qui s'intitule « Non aux déchets fachos actifs, tort, taverne de mort ». Donc c'est toujours dans l'est de la France. Et là c'était ce samedi 7 février à Combres-sous-les-Côtes, un petit village de la Meuse. Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées contre un lieu bien connu des néo-nazis lorrains, mais aussi internationaux. Et c'est le groupe de Metz qui nous fait le récit de cette sortie. Et alors, qu'est-ce que c'était que cette taverne de Thor? Tout simplement, la base arrière des Hammerskins, soit un mouvement néo-nazi actif en Lorraine et à l'international. Ce qui semble ne pas perturber les autorités préfectorales ou autres. Cette taverne de Thor fait pourtant la promotion du nazisme et de ses symboles, ce qui est, a priori, sévèrement interdit dans notre beau pays, me semble-t-il.
En clin d'œil aux salariés de la Biocop.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Le patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant, votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd, Quentin Solgin, entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Le blues parlait du syndicat par François Béranger. Vous écoutez Trou Noir sur Radio... Non, décidément, je ne vais pas y arriver. Vous écoutez Le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et une autre des rubriques de ce Monde Libertaire de mars que nous évoquons avec vous, c'est de la rubrique passeport, donc la rubrique internationale. Elle est plutôt très très chargée, comme souvent ces temps-ci. Tout d'abord, un long article de notre camarade Nader qui nous parle de l'Iran et de la révolte qui s'est déroulée tout au long du mois de janvier, même avant. Alors, rapidement, initié par une protestation de commerçants contre les orientations économiques désastreuses du pouvoir, la révolte s'est bien vite étendue à l'ensemble de la société et pour des motifs bien plus larges que ceux des intérêts un peu étroits des bazaris, les commerçants. Abat la République islamique, mort au dictateur, mort à Khamenei. On connaît la suite. Coupure de l'internet, répression sanglante, des dizaines de milliers de morts et probablement de très très nombreuses condamnations à mort à venir. Mais ce qu'on sait moins, et c'est ce que nous explique l'article de Nader, c'est le rôle trouble des États-Unis et de leurs alliés israéliens qui ont faussement promis l'arrivée d'une aide imminente. De même, l'hypothèse d'un recours au fils Pahlavi, le chat précédent éjecté, a été instrumentalisée et exagérée, et tout cela a contribué à jeter la population dans la rue, au devant de la répression du pouvoir. Aujourd'hui, la perspective d'un nouveau mouvement social s'est à nouveau éloignée, mais USA et Israël pourraient profiter des circonstances pour affaiblir durablement le régime. D'autres rubriques consacrées aux USA et aux revers subis par l'administration Trump, et c'est Ramon qui nous en parle. Krabi, de son côté, nous parle du Rojava assiégé, où la situation n'est effectivement pas très bonne. Et puis, un texte de Daniel Pinos sur Cuba, un pays qu'il connaît bien, qui est intitulé « Le crépuscule du castrisme ». Alors, je me disais en préambule que Iran et Cuba ont en commun d'être des régimes que les États-Unis se sont promis de faire tomber, des régimes qui maintiennent leur population dans des conditions de vie misérables. Là s'arrêtent sans doute les ressemblances, mais côté Cuba, l'arrêt des livraisons de pétrole vénézuélien et iranien pourrait bien être fatal au régime cubain. Et ainsi que où tout manque, médicaments, nourriture, et c'est devenu une prison à ciel ouvert. Et Serge, tu voulais évoquer un peu ce sujet.
Oui, je suis d'autant plus sensible. Daniel Pinos connaîtra très bien Cuba. Il a des contacts avec des anarchistes à Cuba. D'ailleurs, ils sont venus il y a quelques années qu'on a reçu ici Radio Libertaire. Donc, c'est vraiment à partir de témoignages très précis. Donc, tu as situé un peu ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que, enfin, en ce moment, depuis un certain temps, l'économie est vraiment exsangue. Mais ce qui en souffre le plus, évidemment, c'est la population qui manque de tout, de médicaments, de nourriture, d'énergie, etc. Donc, c'est toute la nation qui est de plus en plus étranglée. Donc, il rappelle déjà cet aspect-là. Bon, l'autre aspect, effectivement, c'est ce régime dictatorial qui est en place depuis des années, qui a une société complètement sous tutelle, qui étouffe toute dissidence, arrestation arbitraire, censure totale, enfin, etc. Donc, il prend le terme pour dire qu'il s'agit d'une prison à ciel ouvert, en fait, cette île. Un autre aspect, effectivement, c'est ces libertaires cubains qui organisaient jusqu'il y a peu, d'ailleurs tous les ans, une semaine libertaire à Cuba. Enfin, c'est vraiment extrêmement courageux, mais ils sont de plus en plus des arrestations arbitraires, des séjours en prison. Le choix qu'on leur donne, c'est ou vous partez à l'étranger, ou bien ben, ça va être la répression. Voilà. Donc c'est un peu la situation. Bon. Il signale l'année 2020, date 2025, je terminerai là-dessus, parce qu'il y a quand même des grèves locales, au cri de liberté, des manifestations spontanées, les jeunes sont complètement une vie, ils ont envie de vivre, quoi, au-delà de ce régime. Et il conclut en disant que ça va pas durer des années, il va forcément... Après 60 ans de totalitarisme, ça va pas changer comme ça vers des gens qui vont soi-disant faire la démocratie. Il va forcément y avoir une libération forte qui va se... Alors après, comment elle se déroulera, on ne sait pas. Mais voilà, je pense qu'on aura bientôt sans doute d'autres articles de Daniel. Juste un mot, j'ai oublié, important. Pour ceux qui veulent avoir régulièrement des informations, il y a un site dont Daniel et d'autres s'occupent qui s'appelle Polémica Cubana. Vous faites Polémica Cubana et vous verrez beaucoup plus d'informations que celles que j'ai pu donner là-dessus. Voilà.
Voilà, donc souhaitons aux Cubains d'arriver à se sortir de tout ça par eux-mêmes et que ce ne soit pas les Cubains de Floride qui viennent tirer les marrons du feu, ce qui ne serait pas une bonne chose. Pour conclure cette rubrique internationale, je voulais donner quelques informations. On l'a évoqué un tout petit peu dans Trou Noir avant, mais il y a un jeune mathématicien russe qui s'appelle Azat Miftakov qui est emprisonné pour des motifs tout à fait inconsistants, mais surtout parce que c'est...
Je crois que le motif de base, c'est qu'il est anarchiste.
Voilà,
et en plus, un étudiant reconnu, etc.
Mais effectivement, le principal grief, c'est que ce soit un militant anarchiste. Il a été torturé par le régime de Poutine, puis incarcéré depuis 2019. Le 5 août 2025, il est passé à nouveau en cassation où sa condamnation a été confirmée. Donc c'est bien d'un prisonnier politique qu'il s'agit. Et la Fédération anarchiste participe à la campagne de soutien collectif qui s'intitule Free Azat depuis sa création. Et dans les pages du Monde Libertaire, la page qui lui est consacrée, vous verrez comment contribuer à ce soutien si vous voulez vous y associer.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se grippaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps.
jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniers, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas.
Hécatombe, Georges Brassens, dont on peut juste rappeler au passage, sans s'étaler, que ça a quand même occasionné la garde à vue de deux compagnons en France, à Paris, il y a quelques années. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et voilà, chanter du Brassens, ce n'est pas toujours sans risque. Donc toujours dans le Tour du Monde Libertaire, le numéro 1882 mars, qui va paraître très bientôt. Un dossier, nous les femmes, pour documenter ce que l'on appelle souvent le Mars féministe, même si ces luttes, comme toutes les autres, se moquent bien du calendrier. Alors tout d'abord, dans un article intitulé « Un petit massage vite fait, bien fait », Alain du groupe Pierre Bénard de la Fédération Anarchiste mène l'enquête sur la prostitution à peine cachée des salons de massage ou de relaxation qui fleurissent dans les grandes villes. On en dénombre pas moins de 425 à Paris. Vous avez le choix. Ces pratiques sont pourtant interdites par la loi. Il s'agit bien de trafic d'êtres humains et les femmes qui y travaillent en sont les victimes. Donc à retrouver dans ce dossier. Et puis, connaissez-vous le nouchou ? Toujours dans ce dossier, nous les femmes, le nouchou, l'écriture secrète des femmes. Eh bien, avec le texte de Marie-Jo, qui fait partie de l'émission Femmes Libres, tous les mercredis de 18h30 à 20h30 sur Radio Libertaire, vous allez en savoir plus. En quelques mots, cela se passe en Chine, et le nouchou est une écriture ancienne qui a failli disparaître. Cela signifie exactement « écriture des femmes » en chinois. Elle est reconnue comme étant la seule écriture au monde qui soit inventée et utilisée par les seules femmes. Elle a été créée par et pour les femmes d'une région chinoise, dans la province du Hunan, il y a plusieurs siècles, une pratique menacée qui constitue pourtant une mine de témoignages précieux. Deux autres textes avec un point sur le sectarisme et la question de l'entre-soi, signé par Darlene et Krabi, et puis des poèmes de Marie-Claire Calmus. Avant de retrouver Julien qui nous attend au téléphone et d'évoquer avec lui le dossier central « Comment vivre en anarchie », je sais que Serge voulait nous dire quelques mots d'un texte de Justhomme.
Oui, ça va être rapide parce que j'ai aussi hâte de discuter anarchie avec Julien. Voilà, donc je pense que je vais renvoyer à la lecture. Bon, juste rappeler que c'est dans les fameux coups de gueule de notre ami Justhomme, d'ailleurs il vient de sortir un livre qui s'appelle comme ça, on l'a reçu sur Radio Libertaire. Je donne juste le titre, vous verrez un peu de quoi il s'agit. Des représentants du peuple, non, des représentants du patronat et du capitalisme, oui. En fait, il s'agit à l'Assemblée nationale un certain nombre de députés qui soi-disant nous représente nous, hein, on représente je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais enfin l'intérêt certainement du capitalisme, ont proposé un certain nombre de lois scélérates, elles ne sont pas toutes passées, heureusement, mais il y en a qui vont être peut-être modelées, voilà, je vous laisse lire cet article, bon, voir un peu des gens qui parlent en notre nom, ce qu'ils sont capables de faire, voilà.
Merci Serge, et merci à Justhomme de dire ainsi leur fête aux soi-disant représentants du peuple. Alors comme Julien est déjà en ligne et que on va pas faire attendre, hein, plus que de raison, et qu'on est très heureux qu'il soit là et qu'il nous rejoigne, eh bien on va enchaîner directement avec le dossier qui fait le cœur de ce numéro de mars, comment vivre en anarchie. Julien, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends. Et vous m'entendez bien ?
Magnifiquement.
Oh, magnifique.
Bon,
magnifique.
Bah, c'est parfait. Parfait, parfait. Ben, je suis aussi très, très content. Je suis ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation.
Eh ben, merci de nous rejoindre. Et pour commencer, pour que les auditeurs puissent se faire une petite idée, je vais simplement dire le sommaire de ce dossier. Mm-hmm. Alors, tout d'abord...
Pierre Sommaire.
Meilleur. Ah, pas mal, pas mal. Je commence le sommaire, pas Pierre Sommaire.
Et c'est le premier article.
Et donc, effectivement, le premier article est signé de Pierre Sommaire-Meyer et ça s'intitule « Comment je ne vis pas en anarchie ?» Point d'interrogation. Le second de Philippe Godard, l'auteur de « Le monde selon Google », je ne dis pas de bêtises, « Face au chaos, l'anarchie ». Ensuite, « L'âme toute rongée par des foutues idées » de Lawrence Poulet. Ensuite, « Débrancher le profit, recâbler la solidarité » de N. Hadar. Ensuite, nous avons « Justice partout, police nulle part », toujours de N. Hadar.
Et puis non merci sur le refus de parvenir par le CIRA de Lausanne. Ensuite, pour qu'elle guide les individus, trois petits points, la liberté de l'Union régionale Rhône-Alpes. Ensuite, être ou paraître anarchiste, un texte d'un anarchiste italien peu connu qui s'appelait Giuseppe Giancabia. Ça a été publié dans La Question sociale en 1899, le 7 janvier 1899. Ensuite, nos compagnes et compagnons d'hier de Bernard, notre camarade d'Aubna. Ensuite, faire société selon CIS, j'ai oublié de noter l'auteur. Être anarchiste, une mise en garde nécessaire de Robert Dulude, publié dans Le Libertaire 1924. Et ensuite, une fiche de lecture. Donc voilà un dossier bien complet et consistant. Et peut-être je voulais t'interroger, Julien, pour savoir comment ce dossier avait été constitué. Et puis, moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas presque une trilogie, si ce n'était pas un peu le prolongement d'une réflexion abordée dans les numéros précédents du Monde Libertaire, puisque en janvier, nous avions l'intelligence anarchiste, et en février, municipalisme libertaire qui c'était deux dossiers qui revenaient sur des pratiques et de l'anarchisme en acte.
Oui, alors effectivement, il y a comme une continuité, d'autant plus qu'on essaie de plus en plus au comité de rédaction d'anticiper au maximum les thèmes de manière à pouvoir les annoncer au moins 3 mois à l'avance, afin que les gens aient le temps de se poser, de réfléchir et de travailler leurs articles, parce que d'un mois à l'autre, on s'est rendu compte que... Ça peut aller très vite quand on est tous pris par notre quotidien et écrire un article pour le mois suivant avec des deadlines parfois serrées et puis qu'on ne peut pas dépasser, c'était un peu embêtant. Donc le fait de prendre un peu de recul et de réfléchir à des appels à texte avec des thématiques sur au moins 3 mois d'affilée nous a permis de faire une sorte de défiler un fil rouge ou noir sur ces thématiques-là. Et je dois avouer en plus que je suis content d'intervenir sur ce numéro-là parce que ce thème-là, c'est un thème qui m'était particulièrement cher. Mmh. Ça m'était particulièrement cher parce qu'effectivement, j'aime bien lire un peu les choses du passé, notamment les auteurs qui pouvaient publier dans les revues et les journaux un peu plus individualistes à la Libertad. Et j'aimais bien quand ils posaient le constat de, pour eux, l'anarchie, c'est maintenant et pas dans 100 ans. Et je trouvais que ça donnait à réfléchir. Alors bon, eux, à l'époque, ont tenté d'y répondre en faisant des communautés libres, de ce genre de choses. Certains ont tenté d'y répondre en versant dans l'illégalisme pour ne pas subir l'exploitation au travail. Mais voilà, c'est quelque chose, je trouve que 100, 120 ans après, la question se pose toujours. Et articuler anarchisme et vie quotidienne, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait et j'avais hâte de lire les propositions et les articles qui allaient nous être proposés. Et je suis très content parce qu'effectivement, on a un beau petit dossier. Ouais.
Et c'est vrai que c'est souvent on nous pose la question. Enfin, il y a des gens qui peuvent venir nous rencontrer et qui nous disent l'anarchiste, tout ça, moi ça me parle, ça j'aime bien, mais en acte concrètement, c'est quoi? Ça marche comment? Et donc là, effectivement, d'avoir trois dossiers qui illustrent, qui donnent des exemples de mise en application, je trouve que c'est très très intéressant, effectivement.
Oui, d'autant plus que soit les gens vont demander des actes pratiques, quoi, en disant qu'est-ce que c'est, comment ça marche, ou alors une autre réserve, ça peut être c'est utopique, ça ne marchera jamais, c'est quelque chose, c'est presque utopique, quoi. Que ça montre bien qu'il y a différentes manières d'y parvenir, ou en tout cas de travailler à y parvenir, quoi.
Alors, je sais qu'il y a quelques textes qui t'intéressaient tout particulièrement. Et alors, donc, effectivement, il y a cet auteur qui m'a intrigué, qui s'appelle Giuseppe Giancabia, qui titre un article « Être ou paraître anarchiste ».
Oui.
Et donc, il y a un texte de 1899 publié en France, dans La Question sociale. Peut-être quelques mots sur ce Giancabia.
Oui, alors tout à fait. Alors effectivement, Giancabia, il est C'est un Italien qui a vraiment traversé son époque, mais de manière extrêmement rapide, puisque il a véritablement écrit et travaillé la théorie anarchiste de 1897 à 1904. Il est mort à 33 ans de la tuberculose aux États-Unis. Donc voilà, il n'a pas fait de vieux os, le pauvre. Si je ne dis pas de bêtises, il a commencé comme socialiste et même comme socialiste bien installé en fait en Italie. Et puis suite à des campagnes militaires, hein, des batailles notamment en Grèce, il a plutôt ensuite basculé, il s'est orienté vers l'anarchisme et un anarchisme vraiment sans compromis. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans son œuvre. Alors, je suis loin de connaître toute son œuvre, mais à paraître bientôt, je vais proposer une petite chronique d'un ouvrage, d'un recueil qui s'appelle « À coups de lime, à l'aube de l'anarchisme anti-organisationnel, individualiste et autonome » qui est paru chez Anarchronique, qui est un recueil de plusieurs dizaines de ses articles. Et on voit bien, en fait, que c'était quelqu'un qui était vraiment, on va dire presque hérétique au sein du milieu anarchiste parce qu'il était vraiment sans aucun compromis organisationnel, individualiste, autonome. Et voilà, pendant un moment, il a été proche de Malatesta et puis ils se sont disputés. Malatesta a même failli se faire tirer dessus dans un meeting. Et on a accusé Tshiancabilla qui, visiblement, par contre, pour le coup, le pauvre n'avait aucun rapport avec tout ça. Et moi, ce que j'aime, en fait, voilà, dans son parcours, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à défendre, y compris les têtes brûlées qui allaient vers le versant plutôt illégal qu'autre chose, hein, puisqu'on était sur, rappelons-le, une époque où il y avait quand même aussi la propagande par le fait et carrément des attentats, etc. Alors lui, à longueur d'article, ne prêche pas pour les attentats. Par contre, il ne se dissocie pas des personnes qui les commettent par confort ou par compromis, ou histoire de ne pas s'attirer la répression. Hein, parce qu'on a vu, à son époque, il y a quand même pas mal de têtes couronnées ou de dirigeants qui sont tombés. On repensera à Sisi, le président McKinley, Umberto Ier. Et on a vu, à ces occasions-là, pas mal d'anarchistes dire « Non, non, mais ce sont des fous, des irresponsables, ce sont des malades mentaux, ce ne sont pas des anarchistes, on n'a rien à voir. » Et lui disait « Bah écoutez, certains d'entre nous, une bonne partie des intellectuels de l'époque, ont professé ce type d'engagement. Maintenant, on va pas se renier, on va assumer jusqu'au bout, quoi. » Et donc, surtout par les temps qui courent, je trouve que ce courage de se mouiller, parce que ça lui a attiré, évidemment, d'énormes inimités, des pressions policières, des inculpations. Il a dû changer 150 fois d'endroit aux États-Unis. Ses journaux étaient interdits, saisis, etc. Pour autant, il n'a jamais varié, quoi.
Alors, il y a peut-être pour revenir au contenu de l'article, il dit quelque part, c'est une citation de lui, il dit « En effet, je crois que pour être anarchiste, nous devons surtout l'être pour nous-mêmes. » Donc là, on a l'impression que c'est très individualiste, mais sa position est plus subtile que ça.
Oui, tout à fait. En fait, voilà, il le dit, il faut l'être pour nous-mêmes, mais il y a toujours quand même une dimension collective chez lui, sauf que le jeu de l'individu ne doit pas se dissoudre dans le nous, en fait. Pour lui, le collectif est une somme d'individualités qui peuvent se réunir ponctuellement autour d'objectifs communs. C'est vrai que c'est quelqu'un, alors en parler sur la radio de la Fédération anarchiste, ça peut paraître presque ironique, mais bon, il faut aussi savoir un peu prendre ce qui peut être intéressant aussi chez les uns, chez les autres. C'est quelqu'un qui avait du mal avec tout ce qui pouvait être fédération ou regroupement, on va dire, qui s'entourait d'un certain nombre de règles pour établir ces regroupements. Lui, il était plutôt pour des unions passagères, momentanées, autour de tel ou tel objectif, mais il y avait quand même une dimension évidemment collective, hein. C'était pas non plus un ermite qui entendait dispenser sa sagesse depuis sa tour d'ivoire ou par le biais de ses articles, quoi. Donc effectivement, voilà, il dit beaucoup ont la tentation de paraître anarchiste, de s'afficher anarchiste auprès des autres et de finalement d'avoir une sorte de rôle, là où lui, il dit, on est avant tout sur une dimension personnelle qui va impacter notre manière de vivre et plusieurs jeux comme ça, plusieurs individus peuvent se réunir et travailler plus collectivement.
Serge, un commentaire peut-être sur ce...
Non, mais je pense que si on lit son texte de près, il s'adresse finalement à un individu anarchiste qui a envie d'exister et qui n'a pas à gommer ses envies. Enfin, peut-être qu'il ne fait pas tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut parce que l'État existe et la police, mais on doit essayer d'aller au maximum par rapport à cet individu. Et effectivement, autour de soi, les gens voient comment c'est d'être un individu anarchiste. C'est pas complètement être « je suis dans mon coin et je me fous de ce qui arrive au dehors ». Je n'ai pas ressenti comme ça, et ce n'est pas ce que tu dis d'ailleurs.
Oui, tout à fait, exactement. Et c'est vrai que là, pour le coup, alors c'est un texte qui est très intéressant, c'est un texte qui est quand même beaucoup théorique. Hein, moi, j'invite à lire ces articles, il y a des articles qui sont un peu plus concrets. Pour autant, là, il était vraiment au cœur du sujet, parce qu'en fait, c'est l'anarchisme au quotidien, chaque geste que l'on fait, finalement, il est quand même plus ou moins politique si on réfléchit. Et lui se pose la question de, est-ce qu'on le fait pour les autres, est-ce qu'on le fait pour l'image que ça renvoie de nous, ou est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes, notre intégrité, notre éthique personnelle, en fait, quoi, hein.
Alors, justement, peut-être que ça fait presque le lien, mais il y avait ce texte de Laurence Poulet qui s'appelle « L'âme toute rongée par des foutues idées » et qui cite une phrase de Malatesta. Alors, il y a eu effectivement des différents entre Malatesta et l'autre. Mais donc dans ce texte, Laurence Poulet dit « Vivre en anarchie, c'est aujourd'hui et maintenant ». Et donc, en reprenant la phrase de Malatesta, il ne s'agit pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans 10 siècles, mais d'avancer vers l'anarchie aujourd'hui, demain, toujours.
Voilà, ouais, tout à fait. C'est effectivement cette idée-là, c'est-à-dire que certains pourraient tenter de se dire on va vivre cette routine militante jusqu'à l'éventuel grand soir. Là où d'autres se disent non, c'est toute une éthique, c'est toute une pratique de vie qui nous fait petit à petit aller vers l'anarchie. Alors dans un monde, ces auteurs-là, hein, que ce soit Tshankabila, Malatesta et tout ça, se sont aussi beaucoup posés pour réfléchir autour et de la pression énorme qu'il pouvait y avoir déjà à l'époque, nous aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, d'être anarchiste, d'essayer de pouvoir travailler ces idées-là, cette éthique, ce projet politique, dans les quelques petites marges de manœuvre qu'il pouvait y avoir avec des journées de travail à rallonge, avec une répression terrible. Pour autant, eux le disaient bien, être anarchiste, effectivement, c'est aujourd'hui, maintenant, et c'est un chemin, en fait, quoi, hein, vers lequel se diriger.
Je vous propose une petite pause musicale, puis on se retrouve très vite pour continuer à échanger autour de ce dossier « Comment vivre en anarchie ?»
Y en a marre des évasions de frimes, des grands espaces organisés, des vendeurs d'illusions subtiles qui font l'oubli à bon marché. Qu'est-ce qui reste à nous, gens des villes, avec nos corps atrophiés, nos grosses têtes sur nos coups graciles et nos pieds qui savent plus marcher? Ben, nous on a sous les pavés la plage. Faudrait seulement t'enlever les pavés. Faudrait seulement t'enlever les pavés. Y en a marre du fichage, du pointage, du flicage de l'identité, du considérable carnage dans le cimetière des libertés. Qu'est-ce qui reste à nous les mutants dans nos enclos bétonnés? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, les truands qui règnent en planifiant? Ben, nous on a sous les pavés la plage. Faudrait seulement t'enlever les pavés. On a sous les pavés de la plage. Faudrait seulement t'enlever les pavés.
Sous les pavés, une chanson de François Béranger interprétée par Olivier Trévidi dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et nous sommes toujours au téléphone en compagnie de Julien. Il dit oui, c'est bien, et de Serge avec moi en studio, pour évoquer ce dossier central du numéro de mars du Monde Libertaire, donc il va être en librairie très prochainement, oui, peut-être plutôt dans une semaine, mais très prochainement à la librairie Publico ou dans vos boîtes aux lettres, qui s'appelle « Comment vivre en anarchie ». Alors on a évoqué certains de ces textes. Notamment, il y en a un qui est intéressant, qui émane du CIRA, donc de Lausanne, Centre international de recherche sur l'anarchisme, et qui est sur le refus de parvenir. Alors, de quoi s'agit-il, le refus de parvenir? Serge a des idées.
Je vais passer la parole à Julien, mais vraiment, ça m'a plu et amusé en même temps, parce que c'est aussi l'article sur lequel j'ai vraiment flashé, et peut-être dans les échanges avec Julien, je lui expliquerai pourquoi je me suis senti concerné personnellement, à la fois dans ma vie militante et dans ma vie professionnelle, par des choix qui sont basés autour du refus de parvenir. Et bon, je préfère passer la parole à Julien, et effectivement, à travers les divers aspects de cet article, je lui expliquerai pourquoi je me suis senti particulièrement concerné, et j'étais très content qu'on puisse en parler. Voilà, Julien, à toi la parole.
Oui, d'accord. Eh bien, effectivement, moi, je suis assez amusé de. Enfin, ce sera avec plaisir, d'ailleurs, pour échanger avec toi. Et je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est-à-dire les gens qui lisent cet article-là, notamment. Mais alors, on l'a charcuté malheureusement parce qu'il est en vrai beaucoup plus volumineux. Il est dans le bouquin là qui est sorti récemment chez Nada. C'est un assemblage de textes, dont cette interview qui est un peu plus volumineuse. Et en fait, chez beaucoup de personnes avec qui je peux en discuter, chez moi-même aussi, et puis tu nous le diras peut-être pour toi aussi, on a l'impression, on se dit, non mais bon sang, mais c'est bien sûr, si je peux dire ça comme ça, ça vient théoriser quelque chose qu'on avait tous plus ou moins eu envie ou qu'on avait eu l'occasion de pratiquer. C'est-à-dire ce refus de parvenir à la base. On en parle beaucoup, principalement autour du travail, parce que c'est, je vais vraiment le résumer à très gros traits, à la hache, mais c'est le refus de la carrière, le refus du carriérisme, le refus de s'élever en piétinant les autres, en devenant cadre et en devenant celui qui surveille ses anciens collègues pour que ça marche mieux, ou devenir contremaître, ou etc. C'est refuser d'occuper une place socialement qui a des avantages et dont les avantages sont conditionnés par le fait d'écraser un peu les autres, quoi, hein. Et donc, c'est toute une... Là encore, on y revient un peu, hein, c'est vraiment une pratique, on va dire, quotidienne, c'est une éthique, et j'ai trouvé que, voilà, c'était quand même quelque chose qu'on peut tous essayer de pratiquer. Et donc oui, toi tu me disais, c'est quelque chose qui t'a parlé aussi dans ton parcours.
Oui, ben en fait, en tout cas, le recul parvenir, même si on, je sais pas si on en parle moins maintenant, en tout cas on en parle aujourd'hui, mais dans le milieu anarchiste, c'était quelque chose de très fort. Et en ce qui me concerne, c'est tout simple. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir un diplôme d'ingénieur, et assez rapidement, bon, j'avais anarchiste, je le disais, etc. Mais malgré tout, on m'a proposé un certain nombre de promotions de nouveau chef. Moi, j'ai toujours refusé ce genre de choses, parce que c'était dans les conditions de la hiérarchie et tout ça, donc j'en voulais pas. Mais ça ne concerne pas que des gens comme moi. Moi, j'ai vu des compagnons de l'atelier syndicaliste accepter un certain nombre de rôles, y compris dans le syndicat, où ils sont devenus un peu les chefs, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qu'on vit concrètement au travail, constamment, en fait, savoir... Bon, d'accord, il faut travailler pour gagner un peu sa croûte. Un dernier aspect aussi, c'est peut-être pas le refus de parvenir, quoique, c'est de pas accepter n'importe quoi, n'importe quel travail. C'était réfléchir à l'unité, l'utilité sociale de son travail. Moi, dans la boîte où j'étais, c'est chez l'aviation à l'époque, il y avait des gens qui travaillaient pour l'armée. Moi, j'ai toujours refusé. Je dis pas ça pour dire je suis un mec bien, mais je dis tout simplement, on est confronté régulièrement à ce genre de choses. Et c'est quelque chose d'extrêmement concret, c'est pas quelque chose d'intellectuel, voilà.
Oui, oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est abordé hein, rapidement dans l'article, hein, quand ils disent effectivement, on peut difficilement militer contre la guerre, etc. Et puis après, aller pointer quelque part, on fabrique des mines antipersonnelles ou ce genre de choses.
Voilà.
Et voilà, effectivement, il y a une pression, j'y reviens à ce que je disais sur Sian Kabila et autres, il y a une pression sociale, une pression hiérarchique et des obligations, effectivement. Mais bon, j'ose espérer que tout un chacun, plus ou moins, a des marges de manœuvre qu'il peut ou qu'elle peut saisir pour essayer de faire correspondre un peu ses idées à sa vie quotidienne. Et le refus de parvenir, il en est effectivement, c'est un moyen, quoi. C'est vrai que ça m'amuse parce que je suis en train en parallèle de lire un livre de Dominique Pinsel sur le sabotage. Alors le sabotage, c'est pareil, hein, ça a été un outil anarchiste, syndicaliste, etc., qui a beaucoup été théorisé et pratiqué à une époque. Nous, on a une image du sabotage, des gens qui font sauter les voies ferrées, mais ça pouvait être simplement bosser tranquillement au ralenti, ne pas trop en faire, et ça résonne un peu avec le refus de parvenir, c'est-à-dire de ne pas s'épuiser pour son patron, se garder un peu une énergie, du temps pour soi, et voilà, ne pas tomber dans les enjeux de société là extrêmement hiérarchisés et capitalistes qu'on vit aujourd'hui. Quoi.
Oui. Mais si tu veux, moi j'insiste sur l'aspect, ça peut être aussi vrai dans le milieu militant. Je prends un exemple personnel très simple. Quand je me suis investi dans le syndicalisme à l'époque, bon, moi j'avais l'auréole de l'ingénieur. Bon, d'accord, j'avais participé aux luttes, mais bon, eh ben, on m'a demandé de rédiger les tracts et de décrire les tracts. On avait une section beaucoup d'ouvriers. Mais bon, j'aurais pu dire oui, j'écris. Et puis petit à petit, c'était moi la tête chercheuse du collectif. D'entrée, moi, j'ai dit, écoutez, c'est vous qui vivez quelque chose, je veux bien vous aider à discuter, à mettre ça, etc. Bon, c'est un exemple simple, mais que j'ai vécu, et qu'on peut voir aussi autour de soi, dans des milieux syndicaux ou dans des milieux militants, on peut très bien voir des gens qui deviennent, les chefs, les élites, etc. Voilà. Donc, je trouve que c'est une notion vraiment qui concerne énormément de gens. Enfin, en tout cas, moi, ça me concerne beaucoup.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment un aspect aussi, effectivement, dans le monde militant, où si on aborde un peu ce milieu syndical ou autre, doté d'un certain bagage d'éducation, etc.,
oui, bien sûr.
Ça va permettre, effectivement, de faire sa place. Mmh. Et dans cette place-là, d'avoir l'impression de rendre service et de s'acheter une conscience à peu de frais, finalement, en fait, quoi. Cette conscience à peu de frais, elle peut très facilement s'obtenir, et le refus de parvenir, c'est aussi ça, c'est effectivement se rappeler d'où on vient, mais essayer de rester dans ces espèces de rails un peu bordés. Il y a quelque chose aussi d'intéressant dans l'interview, c'est quand ils évoquent aussi sur le côté militant, comment inscrire le refus de parvenir dans la durée. Moi, il y a quelque chose, un passage que j'aime bien, c'est quand ils disent que c'est pas toujours la peine d'essayer d'être à fond tout le temps et de vampiriser les luttes de base pour faire une carrière et de paraître être... on revient à Tian Kabila, hein, de paraître anarchiste et de vraiment d'avoir cette aura, etc. Il y a un moment, le CIRA explique entre une explosion de radicalité sans lendemain et des choix a priori un peu moins radicaux, mais qui tiennent dans la durée et donnent une cohérence aux engagements, je préfère encore la deuxième solution. La pureté dont certains aiment se draper n'existe pas, tout comme il faut savoir rester modeste dans son parcours professionnel. Il en va de même en tant que militant. Mais moi, je trouve que c'est une mise en garde qui est quand même assez intéressante aussi, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Et en plus, avoir quelqu'un qui est toujours sur la brèche, qui se sacrifie pour les autres, comme je dis toujours, le Christ s'est sacrifié pour les autres, on a vu les siècles qui ont suivi, quoi. Je veux dire, on ne sacrifie pas, on agit, on fait des choses avec d'autres. Enfin, tout ça me semble retrouvé dans cette notion, on n'est pas là pour en foutre plein la vue aux autres, etc. Suivez-moi, et comme ça, tout ira bien, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, sinon, on reproduit ce qu'on essaie de dénoncer d'un autre côté. Donc,
absolument.
C'est quand même, ce serait dommage.
Et peut-être qu'effectivement, une vie riche, pas financièrement, mais d'expérience, se constitue de multiples expériences. Il n'y a pas que la vie professionnelle, il y a aussi l'engagement dans des structures associatives, collectives, qui sont diverses, qui sont effectivement qui rapportent pas d'argent, mais qui, en termes d'échanges humains, vont être riches et apporter beaucoup à l'individu.
Ah bah oui, complètement. Oui, c'est aussi ça, hein, dans l'interview, il parle un peu plus tôt de... tout est une question d'équilibre entre ce qui est subi, mais voilà, réduire le temps de travail aussi pour s'ouvrir à autre chose, ne pas se fondre dans sa carrière et se réveiller 30 ans plus tard en se rendant compte que on n'a pas vu grandir ses enfants si on en a, on n'a pas vu partir ses proches parce qu'on était toujours au travail, et pour au final être quoi, un peu plus cher que le chef, et puis c'est super triste en fait, dans un sens, quoi. Enfin, bon.
Alors, dans un des autres textes que j'ai trouvé très intéressant, et avec dans cette optique de donner des idées concrètes, il y a le texte de Enadar sur débrancher le profit, recabler la solidarité, qui est un peu de réflexion sur la réappropriation collective des infrastructures technologiques, réseaux, cloud, lutte contre l'obsolescence, mutualisation des outils. Et c'est vraiment intéressant parce que on a quand même beaucoup le sentiment d'être très très dépendant de tous ces outils-là et de pas pouvoir y faire grand chose, alors que en fait visiblement il y a quand même des moyens de se débrancher un peu ou de limiter les profits de ceux qui en font beaucoup.
Oui, tout à fait. Je parlais du sabotage tout à l'heure, et à un moment, un des passages de son article, c'est le facteur contre le manager, saboter la marchandisation du lien. Moi, c'est un passage que j'apprécie beaucoup. Quand il dénonce la poste qui se fait payer d'ailleurs, hein, je peux parler au présent, pour aller voir nos petits vieux, parce que sinon, de toute façon, en vrai, ils n'ont plus le temps, ils ne sont plus assez nombreux, et puis de toute façon, c'est quelque chose qui peut se monétiser. C'est quand même le plus abject des services qui peut être proposé. Et puis, oui, effectivement, là, la technologie, elle est bâtie nous pour être un véritable piège dans lequel on tombe avec les scrolling sans fin, la connectivité permanente, on est obligé de légiférer sur des droits à la déconnexion qui sont quand même un peu balbutiants. Et donc, son article propose quand même des passages, des possibilités, des moments où il faut effectivement se rappeler de nos voisins, de nos épiceries, du local, du réel. Des cantines de quartier, de l'éducation populaire, du partage des outils, hein, ou plutôt que chacun ait sa débroussailleuse qui sert 4 fois dans l'année. Donc voilà, c'est des choses de bon sens, on pourrait dire, hein, ce fameux bon sens que des fois on décrit, mais là, il y en a un petit peu quand même, quoi. Et puis, oui, voilà, moi, c'est des choses, en tout cas, moi, c'est des choses qui me parlent, quoi, hein, comme le fait aussi de ne pas tout être sur du cloud, etc. Moi, il y a un moment que j'aime bien, enfin, j'y connais pas grand chose en technique, mais moi, ça m'a parlé, c'est quand il dit gérer son propre serveur local, insiste à supprimer les tonnes de messages et fichiers inutiles que nous ne le relirons jamais, et en plus, c'est des données sur un disque dur qui sont chez nous, donc qui, a priori, sont un peu plus protégées que dans les clouds immatériels. Bon, après, voilà, avec les réserves que j'ai, hein, moi, je n'y connais pas grand chose, mais voilà, ça me parlait, quoi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi dans ces petits appareils, et on sait pas qui a accès, on a beau être anarchiste, on prie un peu, hein, pour que personne ne nous pirate nos trucs, et nos bidules avec nos textes et nos données personnelles, quoi, finalement.
Il y a du magique.
Oui, voilà, c'est ça.
Et puis peut-être quelques mots sur un texte, je crois, qui te plaisait bien, celui de Bernard, qu'il a écrit avec une forme de poésie, faire société selon Sieyès, et que j'ai moi sous-titré Éloge de la marge. Alors, le Jean-Alexandre Sieyès, hein, c'est visiblement lui qui a inventé ce formatage de faire des marges pour les cahiers. Souvent, cahier des colis ou autre, il était libraire papetier de Pontoise.
Oui,
alors,
sur
la marge, moi j'avais une citation que j'ai toujours bien aimée du cinéaste Jean-Luc Godard qui disait que La marche, c'est ce qui fait tenir les pages du cahier.
Oui. Bah, c'est vrai que moi, ce texte, il est très poétique et j'aime beaucoup comment ça glisse de la marge vers le Capricorne, ce petit insecte silencieux. Et j'aime aussi la petite critique qu'il peut y avoir sur, mais c'est la même qui pouvait être faite à l'époque de Libertad et compagnie à ceux qui allaient fonder des milieux libres dans la forêt, etc. Qui disaient, bah oui, vous êtes bien là au milieu de votre petit îlot fermé où vous avez rebâti l'anarchie. Mais on pourra en faire des milliers comme ça, qu'on ne sera pas dans un monde anarchiste ou libertaire pour autant. Ça ne va pas suffire de s'isoler et de vivre de manière individuelle comme on aimerait le faire pour se rapprocher le plus possible de notre objectif. Moi, j'aime bien l'idée quand même qu'il faut un peu de nuisance hein, quand il parle de cet hanneton, de ce coléoptère discret qui, dans la forêt, tout le monde s'en fout, mais quand il se loge dans une maison et qu'il commence à en manger les poutres, là, ça commence à créer un peu des difficultés. Et donc, j'aime bien la manière dont, très poétiquement, très doucement, il vient quand même dire, oui, alors, vivre en anarchie, c'est bien, mais ça ne veut pas dire, voilà, vivre en ermite fermée, et il faut toujours qu'il y ait un petit peu appuyer là où ça dérange, et sortir de la marge, voilà, ne pas rester tout le temps dans la marge, parce que finalement, ça peut des fois être un peu confortable, ça peut être rester immobile, et ça ne va pas suffire.
Il dit qu'il faut passer, même si on est dans la marge, parce que aussi des fois la société nous envoie la marge, mais il faut passer de l'autre côté de la page et intervenir avec les gens qui y sont, et sachant que l'objectif c'est que le cahier, il n'y a plus de marge, il n'y a plus de d'axe rouge qui sépare comme ça les gens, quoi.
Tout à fait. Et j'aime beaucoup sa conclusion parce que ça revient aussi beaucoup à ce que moi, c'est ce que j'aime dans cette idée de vivre l'anarchisme au présent et essayer de porter ses idées dans un chemin. Quand il dit, tu verras autour de toi des gens partageant un idéal libertaire sans le savoir et à qui, lorsqu'ils te traiteront d'utopiste, tu répondras que les anarches qui parlaient de journées de 8 heures, de congés payés et de mon malheur à l'école plutôt qu'au fond d'une mine, on les traitait d'utopistes. Et donc voilà, c'est vrai que voilà, il y a ça aussi. J'aime cette idée que aujourd'hui, une grande partie des idées anarchistes qui semblaient complètement irréalisables, utopistes en 1890, aujourd'hui, elles ont infusé dans notre société et elles ont contribué à un certain nombre de conquêtes sociales, bon, qui restent aujourd'hui plus que jamais à défendre, parce que on est au contraire avec des vents. Mettre un peu dans mon édito de ce journal de ce mois-ci, ça a infusé quoi. On ne se rend pas compte à quel point des choses de notre quotidien aujourd'hui un peu engagées viennent de ces libertaires qui il y a voilà 120 ans prenaient d'énormes risques et essayaient de convaincre leur entourage incrédule et se battaient contre une société qui voulait absolument pas en entendre parler, qui voulait les museler, quitte à les envoyer au bagne ou à l'échafaud. Et voilà, aujourd'hui, on leur doit beaucoup. Et au niveau de notre histoire à nous, on va nous enseigner, et c'est très important, mais le Front Populaire, etc. Mais il y avait aussi avant ces gens qui ont contribué à la diffusion de ces idées-là et qu'on oublie trop souvent.
Comme effectivement tous les textes qui ont été produits, textes réglementaires ou autres, produits par la Commune de Paris, bon, souvent pas eu l'occasion d'être mis en application, mais qui contenaient beaucoup de toutes ces choses-là en germe.
Tellement d'avance.
Interdiction du travail de nuit, interdiction du travail des enfants, des choses qui semblent d'une grande évidence, mais.
Et oui, le droit de vote des femmes, etc., qui était tellement précurseur, on va dire, et ça a été une étincelle, hein, mais. Je pense que ça a permis après hein, que ce soit réfléchi, repris, discuté, travaillé, milité dans ce sens-là, quoi.
Serge ?
Non, je pense qu'on... Je ne sais pas si tu as d'autres...
Après, on peut détailler d'autres textes, mais voilà, peut-être Julien, si tu veux, comme l'heure tourne et qu'on s'approche de la fin. Donc si tu veux conclure, on te laisse le mot de la conclusion sur ce beau dossier de comment vivre en anarchie.
Oui, alors voilà, c'est un dossier dont je suis très très content, effectivement, parce que il y a tout un panel de réflexions qui vont dans des choses qui, à moi, en tant que militant anarchiste, me sont chères. Donc, comme je le disais, hein, ce rappel des initiatives des fois individuelles, mais également cette constitution du collectif, mais qui n'efface pas cette somme d'individus, le fait que il y a beaucoup de choses affaires telles que le refus de parvenir, etc. Mais surtout, le mot de la fin, ce serait de ne pas oublier d'être toujours un petit peu capricorne quand même, finalement.
Le caillou de déranger un peu, de creuser des petites galeries dans les poutres.
C'est ça, exactement.
Pas pour faire effondrer la maison, tout de même.
Non, mais les poutres du capitalisme, on pourrait dire.
Ah, c'est vrai. Là, on voit bien que ça s'effondre un peu, quand même. Très bien. Un grand merci, Julien, d'avoir été parmi nous pour présenter ce numéro de Mars du Monde Libertaire.
Avec grand plaisir.
Écoute, on se retrouve bientôt et éventuellement pour le prochain numéro. Et puis, on va passer un petit peu de musique et ensuite, on va finir un petit tour d'horizon de ce numéro de Mars.
Et si tu ne raccroches pas, je te prends au téléphone pendant la pause.
Très bien. Au revoir.
Salut.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches, et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent. Mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes, et tous les discours finiront par je t'aime. Vienne alors, vienne l'âge d'or. Vienne alors, vienne l'âge d'or.
L'âge d'or, une chanson de Léo Ferré, bien sûr, mais interprétée ici par Éric Frasiac. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc, dernière séquence de présentation de ce Tour du Monde Libertaire, numéro 1881, qui sera en librairie, dans la librairie Publico, je pense d'ici une semaine, et puis dans vos boîtes aux lettres, si vous êtes abonné, et n'oubliez pas de le faire, ou d'abonner vos proches ou vos amis ou vos compagnons de militance. Et puis je vous rappelle, à la fin du numéro, vous verrez, il y a une offre promotionnelle. Vous pouvez avoir un livre pour un nouvel abonnement. Voilà, ça vaut le coup. Il y a plein de livres bien en plus aux éditions du Monde Libertaire. Ensuite, donc, nous arrivons dans l'une des dernières rubriques du ML, qui est la rubrique Réflexion. Tout d'abord, il y a un texte de quelqu'un qui s'appelle Élisée Personne, mais qui n'est pas n'importe qui. Enfin, on ne sait pas qui c'est, mais voilà. Et il nous parle d'un texte qui peut faire un certain écho à ce qu'on a pu évoquer au début de ce numéro. Ça s'appelle « Fascisme, imbécilité, cruauté ». Voilà, c'est un texte de réflexion dont à lire il faut le prendre un peu le temps, mais ça évoque le fait comment dire, que voilà, tout ça est lié, ces trois mots sont liés, on va dire, fascisme, imbécilité, cruauté, et que l'un ne va pas sans l'autre, et qu'il faut s'en prémunir. Un texte d'Élisée Personne, qui nous évoque le côté sombre de la démocratie. Ensuite, deux textes de Jean-Pierre Tertrais dans une rubrique libertaire, donc libérer la terre. Tout d'abord, un premier texte dans lequel il souhaite nous alerter sur les méfaits de l'extractivisme. L'extractivisme, une idée à creuser, nous dit-il. Et effectivement, il nous invite à être attentifs au fait que des ressources minières et autres sont nécessaires dans des quantités de plus en plus grandes, et que tout ça crée des tensions, crée des pollutions, et qu'il ne s'agit pas d'en trouver toujours plus, parce qu'à tout ça, il y a tout de même quelques limites. Et justement, dans le second texte, Jean-Pierre Tertrais parle des limites, puisque son texte s'intitule « Ressources renouvelables ou pas ». Et donc, dans ce texte, il répond à un texte de Philippe Pelletier, qui lui s'intitulait « En finir avec la finitude », qui était publié dans le numéro précédent, le numéro 1880, du mois de février 2026. Oui, Serge.
Oui, par rapport à deux textes de Jean-Pierre, j'ai deux remarques qui ne sont pas de la même nature. La première, sur l'extractivisme, est très important, je pense, à la fois, on va chercher des ressources, y compris pour des choses tout à fait modernes, comme l'intelligence artificielle, comme les portables, etc. Un aspect très important, c'est qu'en fait, la plupart des extractivistes, c'est pas complètement vrai, mais c'est quand même, ça se fait au loin, dans d'autres pays, donc on voit pas ça, on n'a pas ça en tête. Alors, ceci étant, ils commencent à relancer un certain nombre, notamment dans l'Allier, etc., de ces terres rares, par exemple, ou d'autres choses, voilà. Donc, mais il y a cet aspect-là qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut faire prendre conscience aux gens que l'extractivisme, c'est pas parce qu'il passe au loin qu'on doit pas penser à ce que c'est que le capitalisme. La deuxième remarque est tout à fait simple, mais pour ceux qui sont habitués de lire Le Libertaire, ils ne seront sans doute pas étonnés que voir sur certains sujets, il y a des positions diverses. Eh bien, moi, je peux dire ici qu'on en est très fiers. Si vous avez envie, les gens ont envie d'avoir une pensée que j'appellerais moi de totale ou totalitaire, voilà, sur tel sujet, on sait que c'est ça, etc. Donc, c'est en permanence, les anarchistes discutent entre eux, et ça se voit dans le journal, et c'est très, très, très bien qu'il y ait des positions diverses sur un certain nombre de sujets. Voilà.
Absolument. Des articles qui se répondent et donc des débats qui font écho à ceux qu'on peut avoir entre nous dans différents moments plus militants. Mais, ces débats, ces différentes positions, ils nourrissent la réflexion du lecteur qui lui-même peut se poser ses questions et ne pas être forcément totalement convaincu par une position ou une autre. Et voilà, ça participe à ça. La Fédération anarchiste n'est pas univoque. Il y a des voix variées. Dans les pages, du côté des pages recension, Mireille Mercier et Daniel Pinos, comme chaque mois, nous invitent à aller voir un film qu'ils ont aimé. Et cette fois, il s'agit d'un film qui s'intitule « Deux hommes et quelques femmes ».
Alors, « Deux femmes et quelques hommes », non ?
« Deux femmes et quelques hommes », pardon.
J'ai ça sous les yeux, alors c'est pour ça que je suis bon.
Ça peut passer pour un lapsus, mais voilà, effectivement, mon maître de conscience m'a rappelé à l'ordre. Donc voilà, « Deux femmes et quelques hommes ». Je vous en dis pas plus. Je vous l'ai noté la sortie en salle et puis je l'ai pas faite, donc je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, Mireille Mercier et Daniel Pinos, je vous invite à aller le voir. C'est un joli film. C'est pas une grosse sortie, c'est pas un blockbuster hollywoodien. Donc surveillez la sortie. C'est des films qui ne restent souvent pas très très longtemps. Du côté des livres, dans les recensions habituelles, votez moi jamais. C'est de circonstance à l'approche des élections municipales. Et donc, c'est une anthologie qui est présentée par Franck Plazanet. Ensuite, nous avons un portrait de Staline, Aragon, Picasso et le Parti communiste de Laurent Lévy, c'est des éditions La Fabrique, et c'est Hugues qui nous en fait la présentation. Alors voilà, un portrait avec tous ces gens-là, ça fait quelque chose d'assez composite, mais je ne sais pas si c'est digeste, Staline, Aragon, Picasso et le Parti communiste. Ouais, je suis sûr que la présentation va nous apprendre plein de choses. Ensuite, c'est Philippe, individuel du Calvados, qui nous présente Le droit au sol. C'est une BD de Étienne Davodeau, qui a quelques années, mais un très beau texte justement sur le droit du sol, les frontières, ce genre de choses. Sujet qui nous intéresse beaucoup. Ensuite, vous avez Les Refusés. Les femmes artistes n'existent pas. C'est un livre signé par Anne Bourassé, qui est présenté par Hélène Hernandez. Et Les Refusés, vous imaginez bien que ça fait référence à ce fameux salon des Refusés qui va initier en quelque sorte le mouvement impressionniste. Et les femmes artistes, elles, pour d'autres raisons, ont été aussi très très souvent refusées et invisibilisées. Et on a pu penser qu'elles n'existaient pas, mais qu'il y en ait beaucoup qui aient fait de très belles choses. La toute dernière publication des éditions du Monde Libertaire, il s'agit de Jean Labat, itinéraire d'un anarchiste primitiviste. Texte de Sylvain Vagnon. Sylvain Vagnon que nous avions reçu ici il y a un peu plus d'un an. Et on ne désespère pas qu'il fasse un nouveau passage du côté de Paris pour le recevoir et qu'il nous parle de ce fameux Jean Labat. Jean Labat, c'est un anarchiste qui était né dans le Béarn et puis qui monte à Paris et qui ensuite va beaucoup s'impliquer dans les milieux libres et dans une communauté dans l'est de la France ou dans l'Aisne, je ne me souviens plus très bien où. Voilà. Le livre est dès à présent à retrouver à la librairie Publico. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tour du monde libertaire. Normalement, l'équipe de service public devrait prendre le relais au micro. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ils ont quelques temps. L'équipe de service public, ils seront là jusqu'à 21h. Et puis après une petite pause musicale, j'entends la porte qui s'ouvre, donc je crois qu'ils arrivent. Après une petite pause musicale jusqu'à 22h30, votre soirée se poursuivra avec Nuit Noire. Nuit Noire, ce sera en deux parties et Davou vous accompagnera jusqu'au bout de la nuit. Je crois que c'est prévu jusqu'à 3h30. C'est donc terminé pour le tour du monde libertaire. On espère que nous vous avons donné envie de le lire, de vous y abonner et d'en offrir un abonnement. Et je le rappelle, offre d'abonnement promotionnel pour tout nouvel abonnement, de même que tout nouveau bon de soutien à Radio Libertaire. Un livre des éditions du Monde Libertaire vous est offert, et pourquoi pas le tout dernier, Jean Labat, itinéraire d'un anarchiste primitiviste. Merci à Serge et Monique pour l'animation et la réalisation de ce tour du Monde Libertaire, et un grand merci à notre invité du jour, Julien. Le prochain tour du Monde Libertaire, ce sera le lundi 30 mars, et d'y entre, ce sera déjà le printemps. Bonne soirée.
Eh oui. Merci. Et on va se quitter avec HK assigné à Résistance. Au revoir.
Monsieur le Président, qui voulait entrer dans l'histoire. Pour lui rien n'est plus important que son nombril et son miroir. Son ennemi sans visage le remercie infiniment d'avoir su se montrer si sage, tout docile, obéissant. Peu importe les promesses, peu importe les discours, pourvu que du pouvoir on ait l'ivresse. C'est ainsi depuis toujours, toujours, toujours.
Assigné à Résistance, tel est notre Équivalent, le jeune loup, l'enfant prodigue des grands banquiers. Son costume est trop cher, très cher, pour un fils d'ouvrière illettré. Faites place au premier sinistre, adepte du passage en force. Coque fière qui entre sur la piste, qu'il aime tant bomber le torse. Démocratie, au revoir. Démocratie, passe ton tour. Pour toi, nos ancêtres sont morts. Pour toi, nous nous battrons toujours. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. 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 Embrassez-le, ayez bon cœur. Grenade aveugle, crâne fracassé. Gardien de la paix ou de la peur. Ainsi va l'état d'urgence. Profitons de l'occasion pour étouffer la résistance. Interdire les manifestations. Ni garde à vue, ni garde à vous. Aux injonctions, on reste sourd. C'est ainsi que nous sommes debout. Aujourd'hui et pour toujours.
Camion n'était pas très chargé. On m'a relogé dans une cité de carton-pâte. Grande banlieue nord, quel pied géant. Il faut 2 heures le soir pour gagner mes pénates. Qui voudrait qu'on fasse des enfants? Ici, il y a moins de gaz de voiture. Puis j'aperçois même de la verdure. Mais qui me reconnaît quand je passe? Des fois, j'ai presque envie de chialer quand je repense à mon quartier, là-bas très loin, à Montparnasse, qui est devenu la marchande de fleurs Louise et François le sculpteur, les petits vieux du bistrot d'en face doivent être en train de mourir d'ennui quelque part autour de Paris. Et moi tout seul, dans ma cité de carton-pâte, je vieillirai dans le ciment. À travers les cloisons bâties comme à la hâte, j'entends des cris, des pleurs d'enfants. J'entends des cris, des pleurs d'enfants.
to meet you. Hope you guess my name.
Radio Libertaire 89.4. L'émission, c'est Sévice Public. Sévice Public, Sévice Public, Sévice Public, Sévice Public, Sévice Public, Sévice Public. Les quatrièmes lundis du mois de 19h30 à 21h. Sévice Public.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Oh, I saw many a man stole his fate. I was round when Jesus Christ had his moment and died with a pain. I made damn sure that Pilate washed his hand and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my.
Nature of mine.